Alors, bonsoir à vous tous. Merci Gaston, toute son équipe. Ces beaux chants de circonstances. Et merci Seigneur pour le chant, n'est-ce pas? Le cantique nous prépare pour la parole de Dieu. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Trouvez l'épître de Paul aux Colossiens. Et ce soir, Colossiens chapitre 4, versets 12 et 13. Et ce soir, c'est le deuxième message dans la série, mini-série, intitulée Epaphras, tu m'épates. Et dont le thème, c'est le ministère efficace. Alors, la question, ce n'est pas tellement le ministère, mais comment exercer un ministère efficace, un ministère que Dieu peut regarder, évaluer et dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors nous avons dit que ce texte nous révèle trois conditions à respecter pour exercer un ministère efficace. Et j'aimerais juste faire un petit résumé du dimanche soir dernier pour ceux qui n'étaient pas ici. Nous avons vu que la première condition à respecter, c'était d'adopter une mentalité de serviteur, adopter une mentalité de serviteur. Et cela est tiré du texte où Paul appelle Epaphras un serviteur de Jésus-Christ. Et nous avons vu que dans l'original, le mot est doulos, qui veut dire esclave. Et je vous ai exhorté de ne pas être choqué par ce terme, c'est un beau terme. Il faut être esclave de quelqu'un, comme quelqu'un a dit. Soit esclave du péché ou esclave de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Mais il n'y a rien de plus excitant, de plus merveilleux, de plus satisfaisant que d'être esclave de Dieu. Et nous avons remarqué que ce titre, cette appellation, comporte une implication. Tout d'abord, l'esclave de Dieu et sa propriété exclusive. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé un prix. Et maintenant, en étant son esclave, il faut mettre cela dans notre tête, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est fini. Christ a payé un prix, il nous a rachetés et nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété exclusive. Cela aussi, de cette propriété exclusive, découle alors la soumission complète, une obéissance qui va glorifier Dieu, qui va l'honorer. Et ce qui fait en sorte que cette obéissance est complète et totale, c'est si nous avons dans nos cœurs un amour passionné pour notre Maître. Une dévotion singulière. Plus que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, plus que l'obéissance va être facile. Et on a pris l'exemple de l'esclave dans l'Ancien Testament qui avait servi 6 années. Et la 7e année, on lui a ouvert grande la porte pour dire, tu peux partir. Et là, il refuse. Il dit, j'aime mon maître. Je ne veux pas partir libre. Ensuite, nous avons remarqué aussi qu'il y avait cette notion de dépendance totale. Fini les inquiétudes parce que le maître pourvoit. Pourvoit pour ses esclaves. Et finalement, nous avons vu qu'il y avait aussi une responsabilité personnelle. Le travail que le maître nous confie, il y a des comptes à rendre. Et un jour, il va y avoir aussi des récompenses attachées justement à la façon dont nous avons géré ce que le Maître nous a confié. Alors, lisons notre texte et ensuite, on va regarder ce que nous pouvons retirer de ce texte encore ce soir. Alors, Colossiens chapitre 4, verset 12. Paul dit ceci, « Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. » Alors ce soir, nous allons considérer un deuxième aspect de la mentalité de serviteur. Et ensuite, nous allons considérer une autre condition qu'il faut respecter pour exercer un ministère efficace. Alors, nous sommes toujours dans le contexte de cette mentalité de serviteur. Nous avons vu l'implication et maintenant nous allons considérer un deuxième aspect et ensuite une autre condition à respecter. Alors, pour exercer alors un ministère efficace, il faut adopter, comme nous avons dit, la mentalité d'un serviteur. Nous sommes conscients qu'il y a des implications, mais aussi, il faut être conscient de l'impact. De l'impact que cette mentalité de serviteur devrait avoir sur le ministère. Et si vous regardez votre texte encore, s'il vous plaît, au verset 12 que nous venons de lire, le texte est ceci, « Epaphras, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de faire croire, de combattre pour vous dans ses prières. » Un combattant. Et comment est-il dans ce combat? Quelle est son attitude face au ministère qu'il exerce? Si vous regardez au verset 13, Paul va dire ceci, je lui rends le témoignage qu'il y a une grande sollicitude pour vous, les Colossiens, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Alors, que dit Paul d'Epaphras? Il y a une grande sollicitude pour vous. Dans le texte original, si on veut bien comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire ici, selon les manuscrits, ce mot « grande sollicitude » peut avoir deux significations. Tout d'abord, cela a le sens de zèle, d'ardeur. Ça part de quelqu'un qui est zélé, qui est enflammé, quelqu'un dont le cœur brûle, qui est en feu. La traduction d'Harvey va dire ceci, il est dans un grand travail de cœur pour vous. Alors, pour Epaphras, ce ministère qui exerce ici, ce n'est pas juste des sentiments qu'il avait pour les gens de Laodicée ou de Colossiens. Ce n'est pas des souhaits là, qu'il avait, des souhaits pieux. Il n'exerçait pas non plus son ministère au temps partiel. C'est un homme qui y mettait tout son cœur. Et cela était tellement évident pour Paul et pour d'autres que pour renforcer ce point à propos de son ministère, Paul va dire ceci, « Je lui rends le témoignage. Je vois ce zèle chez Epaphras. D'autres personnes le voient. C'est pas du fake. C'est vrai, c'est solide. Ça paraît, c'est évident. » Et ça, c'est Epaphras, un homme zélé, un homme qui est en feu, un homme qui remplit bien son ministère. Et dans le même chapitre, il y a un contraste. Si vous regardez au verset 17, juste brièvement, on parle d'un autre un Archippe, un nommé Archippe. Et qu'est-ce que Paul va dire de lui? Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Vous voyez le contraste? Il y a un qui, Paul va dire, Epaphras, je lui rends le témoignage. Cet homme est en feu dans son ministère. Mais il y a un autre ici, Archippe. Il faut que Paul lui dise, dites à cet homme-là de faire attention. Ce que je vois, je n'aime pas ce que je vois. Et s'il ne corrige pas le tir, il est possible qu'il ne remplisse pas bien son ministère qu'il est en train d'exercer. Et à ce stade, ici, il faut nous poser une question à nous tous. Comment est-ce que nous sommes en train de remplir le ministère que le Maître nous a confié? Et nous avons tous ce ministère. Parce que quand nous avons été sauvés, nous avons tous reçu un don. Et avec le don, nous exerçons un ministère. Alors comment est-ce que nous sommes en train de remplir le ministère que le Maître nous a confié? Sommes-nous caractérisés par le zèle? Ou plutôt par la tiédeur? Sommes-nous des Epaphras? Ou plutôt des Archippe? Ma prière, c'est que nous soyons tous des Epaphras. Alors, comment ressembler à cet homme? Et je prends pour acquis que nous aimerions tous ressembler à Epaphras. Et que quelqu'un pourrait dire de nous, pardon, je lui rends le témoignage qu'il est en feu, il est zélé. Je vais prendre une petite pastille parce que ma gorge me pique. Alors la question se pose, comment exercer non seulement un ministère, mais comment l'exercer en étant zélé, en étant passionné? J'aimerais vous suggérer que la clé se trouve dans l'expression « serviteur de Jésus-Christ »,« esclave de Jésus-Christ ». Celui ou celle qui a la mentalité d'un esclave, qui sait qu'il appartient au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est son doulos, exercera inévitablement un ministère efficace. Comme son diakonos. Il y a deux mots ici. Doulos, c'est l'esclave. Diakonos, c'est le ministère qu'on exerce. Et le croyant qui a fermement dans sa tête qu'il appartient à Christ, avec tout ce qui est impliqué que nous avons vu, aura aucun problème d'avoir un ministère qui est efficace. Et tel était Epaphras. Et tel aussi était le Seigneur Jésus-Christ. Je vous cite un texte dans Luc 22, 27. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, « Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » J'exerce un ministère au milieu de vous. Et quel bel exemple nous avons dans Jean chapitre 13. Vous connaissez l'histoire. C'est juste avant la crucifixion. Le Seigneur est là avec ses disciples. Et là, il fait quelque chose qui va les étonner. Le texte nous dit, Jean chapitre 13, verset 4, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Est-ce que vous saisissez l'image ici? Le Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, va s'habiller dans la tenue de l'esclave de l'époque. Et que fait-il ensuite? Le texte nous dit qu'il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Quelle humilité! Un ministère auprès de ses disciples qui était réservé pour le dernier des esclaves. Et là, Christ y a aucune problématique à remplir ce ministère. Pourquoi? Parce qu'il a la mentalité d'un esclave. Il appartient à son maître, à Dieu le Père. Et là, il nous donne un exemple, un modèle à suivre. Le Christ, esclave de Dieu, exerce un ministère auprès de ses disciples à cause de sa mentalité d'esclave. Et j'aimerais à ce stade-ci faire quelques remarques à propos de l'impact de cette mentalité d'esclave produite sur le ministère. Tout d'abord, celui ou celle qui a cette mentalité ne se voit qu'en étant un simple dépositaire. Tellement important. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Si nous nous voyons comme un simple dépositaire, Dieu nous a confié, notre maître nous a confié quelque chose. Et c'est pareil comme l'esclave dans le temps du Nouveau Testament qui n'avait pas de possession propre. Tout ce qu'il possédait, son linge, où est-ce qu'il habitait, tout avait été donné, confié par le maître. Et si nous avons cette mentalité, nous sommes juste simplement des dépositaires. Alors, en ce qui concerne le ministère, il y a des choses qu'il va falloir qu'on retienne. Et dans un premier temps, je vous en donne trois choses. Le ministère qu'on exerce en étant un dépositaire, c'est un ministère que nous avons reçu. Dans 1 Pierre 4, 10, Paul va dire ceci, « Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service le don, croit qu'il a reçu. » Nous l'avons reçu. 1 Corinthiens 4, 7, dans le même contexte, Paul va dire ceci, « Qu'as-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Et dans le texte que nous avons vu ce soir, Colossiens 4, 17, Paul va dire à Archip, je vous relis le texte, « Dis à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. » Alors il faut commencer là. Le ministère que nous exerçons, c'est un ministère que nous avons reçu du Seigneur. Nous sommes simplement des dépositaires que le Seigneur nous a confié quelque chose pour qu'on puisse le gérer pour lui. Pas de place pour l'orgueil. Pas de place pour se mettre sur un piédestal. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est quelque chose que le Seigneur nous a confié comme un maître confié ses biens à ses esclaves. Et dans le but qu'on puisse le gérer pour lui. Et quand je vois ce texte ici, je regarde et je vois la miséricorde et la grâce de Dieu de nous confier justement ses ministères afin que nous puissions les gérer pour lui. Pourquoi je dis que c'est la grâce et la miséricorde de Dieu? Parce que, avant d'être sauvés, nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions haïssables. Le texte nous dit que nous haïssons les uns les autres. Notre attitude de cœur, c'est que nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et voilà maintenant, sauvés, que Dieu va nous confier ses biens. Et je pense ici à l'apôtre Paul qui était tellement touché par ce que Dieu avait fait pour lui. Dans 1 Timothée 1, 12, pas besoin d'y tourner, mais il va raconter sa vie. Il a dit, j'étais un blasphémateur. J'étais un homme violent. Je persécutais l'Église. Mais il dit, j'ai obtenu miséricorde. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé. Mais pouvez-vous imaginer que Dieu va prendre ses biens, il nous les confie. Quelle grâce, quelle miséricorde. Deuxièmement, ce ministère que nous avons reçu, ce n'est pas seulement un ministère reçu, mais c'est un ministère aussi qui est régi par l'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que le Saint-Esprit qui l'a donné, c'est le Saint-Esprit qui le dirige, et c'est le Saint-Esprit qui le, par sa puissance, qui va la dynamiser, qui la dynamise. Dans 1 Corinthiens 12, 4, Paul va dire ceci en parlant justement des ministères. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Et après, au verset 11, il va ajouter, il va lister tous les dons des ministères. Il va dire ceci, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit. Et dans Colossiens 1, 29, Paul parle du ministère qu'il exerce. Et ce ministère qu'il exerce, il a dit, le but c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça c'est mon but. Paul a dit, j'ai ce but de présenter à Dieu tout homme parfait. Et là, il ajoute, c'est à quoi je travaille. Combattant avec quoi? La force. La force qui agit puissamment en moi. Vous le voyez? Paul exerce un ministère, mais il sait que l'efficacité de ce ministère-là, il ne peut pas le faire tout seul. Il doit le faire par la puissance de l'Esprit Saint. Il combat, oui, mais par la force de Dieu qui agit en lui. Et en pensant à cela, je pense à la sagesse de Dieu. Notre Dieu qui est infiniment sage. David, en Psaume 139, quand il pense à toute la création de Dieu, comment Dieu aussi a dit, tu as tissé dans le ventre de ma mère avec sagesse. Mais ça n'arrête pas là. Quand Dieu nous sauve, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, Dieu dans sa sagesse donne un don à chaque croyant afin qu'il puisse exercer avec ce don un ministère. Le Saint-Esprit distribue des dons comme il veut. Et ce n'est pas à nous de questionner pourquoi est-ce qu'il a donné un tel don à un autre et pas à un autre. Dieu est infiniment sage. Il faut respecter cela. C'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut. Et avec ce don et le ministère, il y a un but parce que Dieu, dans sa sagesse, a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions, des œuvres d'avance dans sa sagesse. Et le don qu'il nous a donné va avec le ministère qu'il veut qu'on accomplisse. Parce que Dieu est sage. Et quand ces deux choses sont évidentes, le croyant avec sa mentalité d'esclave, qui est prêt à obéir, qui est prêt à y mettre le paquet, qui est zélé, et cela s'harmonise avec le Saint-Esprit qui anime le croyant, là vous allez vous trouver en présence d'un ministère efficace qui porte du fruit et qui glorifie Dieu. Et le contraire aussi, ça peut se faire. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est charnel. Quelqu'un qui peut convoiter le don de quelqu'un d'autre. Et comme on dit souvent, Michel dit souvent, d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Respectons la sagesse de Dieu. Et là, Paul va dire dans Corinthiens, il parle l'image d'un corps. Et là, vous avez comme le chicane, l'œil ne peut pas dire, la main, puis tout ça. Chacun a sa place, chacun a sa fonction. Et quand chacun respecte la sagesse de Dieu, en les plaçant là, le corps fonctionne bien. Mais quand vous avez justement L'œil qui va être un pied, puis le pied qui va être le cerveau, là, ça confuse la sagesse de Dieu dans la diversité des dons et la façon dont il les a donnés. Et troisièmement, le ministère reçu, régi par l'Esprit, mais aussi réalisé auprès des autres. Ce ministère, il n'est pas pour vous-même, c'est pas pour moi-même, dans le sens, pas pour moi-même, dans le sens que je l'ai reçu et je me glorifie et c'est mon ministère et ôtez-vous de là, puis mets sur un piédestal. Dans Colossiens 4, 12, comme nous avons lu, Epaphras exerce un ministère, mais il dit, il ne cesse de combattre pour vous. Ça, c'était pourquoi il était dans son ministère. Il se donnait corps et âme pour les chrétiens. Donc, Colossiens 1, 7, Paul va dire sa même chose en parlant d'Epaphras. Il est pour vous un fidèle ministère de Christ, un fidèle ministre de Christ. Il exerce fidèlement un ministère, mais ce ministère est pour les autres. Et dans 1 Pierre 4, 10, comme nous avons déjà vu ce texte, mais là je prends l'autre aspect. Pierre va dire ceci comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Il parle des ministères. Que chacun de vous mette au service, quoi, des autres, le don qu'il a reçu. Voyez comment tout cela va ensemble. Le Saint-Esprit donne les dons. L'esclave sait qu'il a reçu. Le Saint-Esprit est là qui, dans sa sagesse, donne des dons. Et c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et pourquoi Paul va utiliser le terme comme des bons dispensateurs? Nous avons eu un témoignage à la miséricorde de Dieu. Nous avons eu aussi un témoignage à la sagesse de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit dans ce texte nous dit que les ministères, c'est pour les autres, nous avons ici un témoignage à la bonté de Dieu. Et là, il y a ici un parallèle avec Éphésiens chapitre 4, pas besoin d'y tourner. Mais le texte nous montre que le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, est présenté comme un vainqueur. Et à l'époque, les vainqueurs, quand ils revenaient de la bataille, ils rapportaient avec eux du butin. Et nous avons le grand vainqueur, le Seigneur Jésus-Christ, qui revient victorieux. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Il a fait des dons aux hommes par le Saint-Esprit qui a été envoyé. Et les dons qui ont été donnés justement aux croyants. Et là, nous avons un parallèle avec David. Notre frère Laval nous a entretenu là-dessus mercredi dernier. David, dans 1 Samuel chapitre 30, pas besoin d'y tourner, mais il a combattu les Amalécites. Et là, il a rapporté un grand butin. Il y avait 600 hommes avec lui, et quand il est allé pour les combattre, il y avait 200 hommes qui étaient trop fatigués pour aller suivre David. Alors, ces 200 hommes sont restés auprès des bagages et les 400 hommes sont allés avec David au combat. Et quand David revient, là, il a battu les Amalécites, il ramène un grand butin. Et là, il y a des 200 hommes qui sont là, fatigués, qui ne sont pas allés à la bataille. Et là, il y a des méchants hommes, des hommes méchants et vils qui ont dit, eux autres, on va leur donner juste leurs femmes et leurs enfants, et rien du butin. Et David a dit non. On voit la bonté du cœur de David. Même s'ils ne sont pas allés à la guerre, David a dit, eux autres aussi, ils vont avoir leur part. Et là, il prend le butin, il va le distribuer, et il donne aussi une part à ces hommes-là. Et après ça aussi à ses amis, aux anciens d'Israël, et ainsi de suite. Mais j'aimerais vous faire voir le parallèle. David, cet homme dont le cœur est bon, il y a des hommes méchants qui ne voulaient rien donner. David a dit non, eux autres aussi vont avoir leur part. Et le Christ, quand il est revenu vainqueur, après sa mort et sa résurrection, dans sa bonté, Dieu donne des dons aux hommes. afin qu'il puisse exercer un ministère. Et un ministère qui va faire quoi? C'est quoi le but du ministère d'un croyant? Mais c'est de faire du bien aux autres. On nous dit de ce Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait croire de lieu en lieu faisant le bien. » Ça, c'était le ministère de Christ. Son ministère terrestre a fait du bien aux autres. Il a guéri des lépreux. Il a ouvert, justement, donné la vue aux aveugles. Il a nourri les foules. Et même quand on l'a crucifié, cet acte, Dieu a fait sortir du bien, le salut de nos âmes. Et le Christ ressuscité maintenant est au ciel. Il donne des dons aux hommes qui puissent exercer un ministère auprès des autres pour que la bonté de Dieu découle à travers le chrétien vers les autres. Dans l'Église et aussi dans un monde qui a tellement besoin de voir la bonté de Dieu en action dans la vie des croyants. Ça, c'est la pensée du Seigneur à propos des ministères. Les dons et les ministères qui en découlent devraient être utilisés, non pas pour le prestige de ceux qui les possèdent, mais dans l'intérêt des autres. Et puisque nous voyons comme esclaves de Dieu, ne possédant rien, mais responsables à gérer ce qu'il nous a confié pour sa gloire, puisque nous allons exercer un ministère efficace, et plus que nous allons mettre en pratique Marc 10, 43, où Jésus a dit à ses disciples, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Vous voyez? Et plus que nous imiterons le maître qui a dit ceci, Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Et pour donner sa vie comme le rançon de beaucoup. Alors ça, c'est l'impact que la mentalité d'esclave va produire sur le ministère. Et ma prière pour vous ce soir et pour moi-même, j'espère que cet impact est là dans nos ministères et dans nos vies parce que nous avons la mentalité d'un serviteur. Alors deuxièmement, pour exercer un ministère efficace, il faut avoir la mentalité d'un serviteur. On a vu l'implication, on a vu l'impact. Mais aussi pour exercer un ministère efficace, il faut s'armer des méthodes de soldat. Il faut s'armer des méthodes. On a la mentalité d'un esclave, d'un serviteur, mais il faut aussi avoir les méthodes d'un soldat. Si vous regardez votre texte au verset 12, Paul va dire ceci, il ne cesse de combattre pour vous. Parlons des paraphrases. Il ne cesse de combattre pour vous. Alors, dans le texte original, le mot combattre ici n'est pas le mot usuel qu'on utilise dans le contexte d'une guerre. Il y a un mot pour cela en grec, c'est poléméo. Et ça, c'est dans le contexte d'un guerre. Quand on s'en allait à la guerre, par exemple, dans Apocalypse 2.16, où le Seigneur Jésus-Christ a parlé, il a dit, « Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Le mot est là, « poléméo ». Mais ce n'est pas le mot que nous avons dans le texte de Colossiens. Et parfois, ce qui combat, ce n'est pas le même mot. Apocalypse 12.7, nous avons aussi dans le même contexte, « Il y a guerre dans le ciel. » Michel et ses anges combattirent encore dans le contexte d'une guerre avec le dragon. Ce n'est pas le mot qui est là. Dans le mot de notre texte ce soir, où est-ce que Epaphras ne cesse de combattre, c'est le mot c'est agonizomé. D'où vient le mot agoniser? L'idée c'est de lutter, c'est de s'efforcer. La Bible de Jérusalem va traduire ce texte comme suit. Il ne cesse de lutter pour vous dans ses prières. Dans 1 Corinthiens 9, 25, Paul va utiliser le contexte des épreuves sportives où les athlètes sont en compétition les uns contre les autres. Et qu'est-ce qu'il va dire ceci? Tous ceux qui combattent, ça c'est notre mot là. L'idée d'agoniser, de lutter, de faire des efforts, dépenser de l'énergie, s'impose toute espèce d'abstinence. Dans Luc 13, 24, le Seigneur va dire ceci, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Luttez. Faites des efforts. Agonisez pour entrer par cette porte étroite. » Et dans les deux textes, comme j'ai dit, on veut arriver à un résultat. On veut obtenir quelque chose. Alors, ça implique une lutte. Ça implique des efforts. Et ça, c'est Epaphras qui va exercer ce ministère auprès des autres. Il prie pour les autres. Il a la mentalité d'un esclave. Son ministère est efficace. Et pour qu'il soit efficace, et pour qu'il porte du fruit, qu'il donne des résultats, qu'il glorifie Dieu, il ne cesse de combattre. Il ne cesse de lutter. Il s'efforce. Il peine. Il se donne corps et âme. J'aimerais vous donner ici trois choses qui caractérisent un type de ministère que nous avons devant nous ce soir. Dans un premier temps, il y a la fervence. Dans 1 Timothée 6, 12, pas besoin d'y tourner, mais Paul va dire ceci à Timothée, « Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. » C'est comme si Paul disait à Timothée, « Timothée, lutte. Lutte, Timothée. Fais des efforts. Donne-toi corps et âme. Et cela te permettra à saisir la vie éternelle. » Et là, nous pouvons nous poser une question. Qu'est-ce que Paul voulait dire ici par « saisir la vie éternelle » ? Et ce matin, Michel a parlé de cela. Nous avons ici un exemple de l'équilibre qu'il faut toujours rechercher dans la vie chrétienne. Si vous êtes un chrétien authentique ce soir, à cause de votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, vous avez la vie éternelle. Vous l'avez. Et aucun effort, aucune lutte ne peut vous la procurer. Vous l'avez. Mais le salut est gratuit, Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Mais Paul, il dit ceci. L'idée, c'est comme, vous avez la vie éternelle, mais il ne faut pas penser que vous pouvez vous mettre sur la cruise. C'est le cruise control, là, sur une voiture. Et là, vous restez là, on se la coule douce, et on s'en va au paradis. Et non. C'est pas ça. Paul dit à Timothée, écoute, la vie chrétienne, c'est une guerre. Nous sommes sur un champ de bataille. Et pour remporter la victoire et pour entrer pleinement dans cette vie que Dieu nous a donnée, nous la possédons, mais pour entrer pleinement dedans, c'est ça qu'il est en train de dire, combattre pour saisir la vie éternelle. Vous voulez avoir un ministère qui va avoir des retombées jusqu'à dans l'éternité, qui va porter du fruit, qui va être efficace. Mais là, il faut agoniser. Là, il faut combattre. Là, il faut lutter. Il faut se donner pleinement. Ça, c'est le sens de combattre pour saisir la vie éternelle. Quelqu'un a bien dit, cela ne coûte rien pour devenir chrétien. Christ a payé tout à la croix. Mais pour devenir le chrétien que Dieu veut que nous soyons, ça, c'est extrêmement coûteux. Et en relation avec cela, ça me rappelle l'événement dans la vie de Jacob, à Peniel. Vous connaissez l'histoire, Jacob, il est seul. Il y a un homme qui va lutter avec lui. Là, il commence à faire jour et l'homme a dit, c'est l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il s'est incarné. Et là, l'homme va lui dire, laisse-moi aller. Et Jacob va saisir cet homme. Il va le saisir. C'est Dieu, là. Il va lutter avec lui. Il dit, je ne te laisse pas aller, que tu m'aies béni. Vous voyez l'idée? Jacob, malgré tout ce qu'il avait vécu, il avait un désir pour les choses spirituelles. Son frère Ésaü, c'est un homme profane. Mais Jacob avait justement saisi l'importance des choses spirituelles. Et là, il est dans une lutte avec l'ange de l'Éternel. Puis là, il dit, je ne te laisse pas aller, je vais lutter avec toi, je suis prêt à te retenir. Tu dois me bénir, je veux agoniser. Et vous savez l'histoire, il a été béni. Et son nom a été changé. Israël, prince de Dieu, tu as l'homme qui a lutté avec Dieu. Et combien ça a dû faire chaud au cœur de Dieu de voir cette attitude de cœur. Et vous savez, Dieu a des bonnes choses pour vous et pour moi. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais sommes-nous comme Jacob? On veut les avoir. On veut avoir un ministère. On veut avoir une vie qui dégage du bien comme le Christ. Sommes-nous prêts à agoniser, lutter, faire des efforts pour les recevoir? Dieu cherche des combattants. Alors, non seulement il y a la fervence dans le ministère d'Épaphras, il ne cesse d'agoniser, de combattre, de lutter, mais il y a aussi de la persévérance. Il ne cesse. Il ne cesse de combattre pour vous. Combien ça a dû être réconfortant pour les camps des Colossiens, puis les gens de Laodicée, puis de Hierapolis, de savoir qu'il y avait un homme qui était là devant le Seigneur, jour et nuit, et qui luttait avec Dieu pour dire, écoute, ces chrétiens-là, je prie pour eux, j'exerce mon ministère pour eux autres, et je veux que tu les bénisses. Et je continue, je persévère, je ne lâche pas. Hey, ça doit vous faire du bien de savoir avoir quelqu'un qui est en train de se baquer comme ça. Il ne cesse pas. Vous savez, et ça fait chaud au cœur, non seulement au Seigneur, mais au cœur de Paul aussi. Et quel contraste avec un autre homme, je pense ici, de Démas. Paul a pu dire, Démas, il m'a abandonné. Un autre homme qui avait un ministère avec Paul, mais qui n'a pas persévéré. Et dans ce contexte ici, je pense au texte où Paul va dire la même chose. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Le mot est encore là, agonisomé. J'ai achevé la course. Vous voyez la relation? Quand vous luttez, quand vous vous efforcez, vous allez persévérer. Et quand vous persévérez, vous allez terminer ce que Dieu vous a mis devant vous. Et dans ce contexte ici, je pense à Élie sur le mont Carmel. Quelle belle histoire. Là, il y a eu ce concours avec les faux prophètes de Baal. Rappelez de cela, il avait mis un autel, il avait mis de l'eau et ainsi de suite. Puis là, Élie a remporté les victoires. Il y a eu une famine en Israël à cause de l'idolâtrie. Et Dieu avait fermé les cieux. Pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et là, après le concours avec les prophètes de Baal, Élie monte sur la montagne de Carmel pour prier. Là, le visage contre terre, le peuple a reconnu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, il n'y a rien maintenant qui empêche Dieu d'ouvrir les écluses des cieux et bénir son peuple. Et là, Élie prie pour cette bénédiction pour le peuple, pour eux. Et que se passe-t-il? Il envoie son serviteur, il dit, va du côté de la mer. Et là, le serviteur, il revient, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Deuxième fois, il dit à son serviteur, retourne. Et là, le serviteur revient, il n'y a rien. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il n'y a rien. Pensez-vous qu'Élie était découragé? Il aurait pu dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Le peuple a reconnu l'Éternel et Dieu. Pourquoi tu bénis par le peuple en envoyant maintenant la pluie? Je vois un homme qui a persévéré. Il n'a pas cessé de lutter, d'agoniser, de faire des efforts. Et la septième fois, quand le serviteur va et dit, il y a un petit nuage comme la paume, la main d'un homme. Et dans quelques instants, le ciel s'est obscurci et une forte pluie. Mais c'est parce qu'il y avait un homme qui est resté dans la brèche et qui a persévéré jusqu'à ce que la bénédiction est venue. Ça, c'est Epaphras, son ministère. Il n'a pas lâché. Il ne cesse de combattre pour vous. Et finalement, je termine avec ceci. Le ministère d'Epaphras est caractérisé la fervence, la persévérance, mais aussi par le sacrifice et la souffrance. Je ne veux pas vous donner une mauvaise impression, mais tout ministère efficace, il y a un prix à payer. Et vous gardez la vie du Seigneur Jésus-Christ, le ministère le plus efficace qui a jamais eu sur la terre, il y a un prix à payer. Jésus a dit ceci dans Jean 12, 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, l'esclave plus que son seigneur. Jésus a payé un prix, il a donné sa vie, un ministère efficace. Et nous aussi, nous devrions être prêts à payer le prix. Et je finis avec ce terme ici, une grande sollicitude. On revient à ce terme parce que les manuscrits diffèrent. Il y a quelques manuscrits qui disent que ça veut dire zèle, et d'autres manuscrits, le mot veut dire peiner, se dépenser, se donner du mal. La version sommaire dit ceci, il se dépense beaucoup pour vous. Il se dépense. Il ne regarde pas au prix. Il se dépense. Pour vous, Nouveau Bible Scofield va dire ceci, il se donne beaucoup de mal pour vous. La Bible en français courant va dire ceci, il se donne beaucoup de peine pour vous. Et dans le cas d'Epaphras dans le ministère, situé dans le contexte de la prière, je vois un homme qui s'est privé des heures de sommeil. Ça, c'est le prix qu'il a payé. Pour que son ministère soit efficace. Il a dû passer des veilles dans la prière, en agonisant, en luttant pour les chrétiens. Et nous allons voir, Dieu voulant, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il demandait pour ces hommes, ces personnes. Pour moi aussi, c'est un homme qui a jeûné, s'est privé de la nourriture. Vous savez que cet homme est un modèle. Mais nous avons aussi un modèle par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Son ministère a été caractérisé par la fervence. Dans Luc 12, 50, le Seigneur a dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Ça, c'est le modèle par excellence, Seigneur Jésus-Christ. Son ministère, il y avait de la fervence dedans. Combien il me tarde d'accomplir le ministère que le Père m'a donné. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, son ministère a été caractérisé par la persévérance. Luc 9, 51 nous dit ceci, que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Le prophète Isaïe va dire ceci, « J'ai rendu mon visage comme un caillou. » Il n'y avait rien au monde qui pouvait empêcher Christ d'aller jusqu'au bout, la persévérance. Et finalement, le sacrifice et la souffrance. Deux textes, Jean 10, 15, Jésus a dit, « Je donne ma vie pour mes brebis, le sacrifice. » Et 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Et quel ministère, hein, le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes le fruit de cela. Et en retour, maintenant, il nous demande d'aller et d'exercer un ministère efficace. Il est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il a donné des dons aux hommes. Il vous a donné des ministères. Comme Epaphras. Ce n'est pas un surhomme, Epaphras. Nous tous, nous pouvons avoir un ministère où est-ce qu'il y a du zèle, de la fervence, de la persévérance. mais aussi il faut être prêt à payer le prix. Vous savez, les retombées, c'est des retombées éternelles. Je vais terminer avec une question. Êtes-vous un bon soldat de Jésus-Christ? On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour cet homme, Epaphras, un serviteur fidèle, un esclave. Ton esclave, mais qui avait à cœur ton œuvre et qui s'est donné corps et âme pour les autres. Seigneur, fais de chacun de nous alors des serviteurs, des esclaves zélés pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Tu nous as donné de ton esprit, tu as équipé chacun de nous avec un don, et maintenant, Seigneur, que nous puissions prendre cela au sérieux et mettre cela en pratique. Alors, bénis ton peuple ici. Fais de nous, Seigneur, des bons esclaves, mais aussi des bons soldats, afin que tu en aies toute la gloire. Demandant ces choses au nom de Jésus. Amen.